Donc, comme je le disais, cette semaine, et le mois entier, c'est le mois du rosaire. Et le 7 octobre, eh bien, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et j'aimerais bien me tourner vers Notre-Dame aujourd'hui, parce que vraiment, ce rosaire est une arme puissante qui nous a été donnée et à toute l'Église et depuis bien longtemps, historiquement depuis le Moyen-Âge, mais... La prière à Marie remonte encore plus haut. On a fêté les anges gardiens. Hein, c'était le 2 octobre, hier. Marie, elle est vraiment l'ange gardien par excellence de chacun d'entre nous, comme de toute l'Église. La fête du rosaire, de Notre-Dame du rosaire, provient d'une fête antérieure qui s'appelait Notre-Dame de la Victoire. Et ces deux fêtes, eh bien, en réalité, elles célèbrent une victoire, un peu à la manière de Jeanne d'Arc, sauf que la Vierge n'a pas fait comme Jeanne d'Arc, elle n'a pas pris la tête des armées, mais les papes qui ont érigé cette fête ont considéré que l'action de Marie avait été déterminante pour la victoire des chrétiens contre les Turcs, deux guerres qui oppose l'Europe au royaume ottoman de l'époque, la Turquie actuelle. D'abord en 1571, c'était la fête de Lépante, donc institution de la fête de Notre-Dame de la victoire de la foi, donc, parce qu'il s'agissait de défendre la foi, pas des territoires. Et puis, deux siècles plus tard, en 1716, Clément IX, Et bien, là, c'est sous les murs de Vienne, enfin presque, l'armée ottomane est défaite par le prince Eugène. Deux victoires et la fête qui est reconduite et étendue à toute l'Église. Elle est dans le calendrier romain et c'est la fête de la foi. Et on a bien raison de ces deux papes qui ont eu du mal à mobiliser les souverains européens de l'époque, parce qu'en fait ils étaient indifférents à ça, à ce qui arrivait dans les frontières orientales de l'Europe, ça ne les intéressait pas la plupart du temps. Mais les papes, eux, eh bien, voyaient pas des questions de frontières, ils voyaient vraiment des questions de salut des âmes. Et c'est Notre-Dame du Rosaire, eh bien, elle porte toute cette valeur-là en réalité, même si on l'a bien oublié aujourd'hui. Mais ce qu'on n'a pas oublié, c'est que lorsqu'on prie ce rosaire, ce chapelet, la Vierge Marie, eh bien, restaure en nous la foi, l'espérance et la charité. Et d'une manière à la fois simple et très puissante. Vraiment, ça ouvre, cette prière ouvre la porte à toutes les autres formes de prière, plus contemplatives, peut-être plus profondes dans la participation que nous avons à ces prières, mais finalement pas plus efficace dans la mesure où c'est toujours la même chose. Prier, c'est se mettre en présence de Dieu, du Christ, et la Vierge bien, nous prend par la main pour nous mettre en cette présence. C'est ainsi, quand on communie, eh bien c'est Marie qui, de même qu'elle a apporté le Verbe de Dieu au monde il y a 2000 ans, eh bien c'est toujours elle qui nous ouvre en quelque sorte les yeux, qui nous porte là devant le Christ. Oui, la foi, l'espérance et la charité. Nous en avons bien besoin de nos jours, où vraiment on a l'impression qu'on est en pleine tempête et en pleine obscurité, comme la fameuse traversée du lac de Tibériade, là où les disciples sont ballottés par une tempête en pleine nuit. C'est vraiment les signes des temps en ce moment. Les signes des temps, c'est qu'on peut s'accrocher à rien et on comprend rien, même dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut purifier. C'est toujours comme ça qu'il impose ou qu'il permet les épreuves. C'est toujours pour recadrer les choses, pour nous permettre aux hommes eh bien, de faire le compte, le constat de leurs actions, de leurs valeurs, de leurs choix. La Vierge Marie est là pour nous accompagner, cependant, au milieu de cette nuit qui est la nuit contemporaine. Et elle nous introduit dans une contemplation et dans une relation avec le monde divin. C'est lié à la méditation, ça s'est fait petit à petit, des mystères de l'Évangile, mystères joyeux, douloureux, glorieux, lumineux aussi, ultimement. Et ça, ben, ça nous oblige à rentrer en contact à nouveau avec l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible. Et Marie, en réalité, est là pour nous donner des intuitions, pour nous permettre d'approfondir notre foi. Donc, ce n'est pas seulement le cœur qui travaille, c'est aussi l'esprit qui comprend mieux, qui approfondit sa foi. Car c'est un devoir des chrétiens d'approfondir sa foi. Je suis émerveillé de voir des fidèles. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement là, qui se prétendait très croyante et chrétienne, bien sûr. Bon, elle n'allait pas à la messe, mais... Et puis elle confondait réincarnation avec résurrection. Elle était étonnée que je lui dise que la réincarnation, ce n'est pas la foi chrétienne. Et elle a eu du mal. Et on est dans une période vraiment où on n'approfondit pas sa foi, on ne la médite pas. On la reçoit et puis il y a des rites sur lesquels on se laisse porter. On surfe dessus et puis voilà quoi, ça s'arrête là. On connaît 2-3 grands commandements et puis c'est tout. Ça suffit peut-être pas pour le salut, ça. Quand on aime quelqu'un, eh bien, voyez, dans un couple, puisque c'est le mariage, hein, le thème de ce dimanche, bah dans un couple, on s'observe mutuellement et on finit par se connaître vraiment par cœur, parce qu'on aime. On regarde celui, celle qu'on aime. Ça fait partie de l'acte d'aimer. Si on n'approfondit pas sa foi, c'est parce qu'on n'aime pas suffisamment le Seigneur. Et Marie est là pour essayer de réchauffer ces cœurs un peu trop tièdes qui sont les nôtres souvent. Marie, dans l'Église, elle est comme à la Pentecôte, au milieu des apôtres. Elle est vraiment la mère des croyants. Et c'est pourquoi Jésus l'a confié à Jean au pied de la croix. Quand il lui dit « Femme, fils, voici ta mère », vraiment, c'est pas anecdotique, c'est pas simplement sa mère terrestre, un fils qui, en tant qu'homme, se préoccupe du devenir de cette femme, son soutien familial. Non, c'est pas pour ça. C'est pour qu'elle soit, c'est sa mission, mère de l'Église et pas mère de Jean, tout simplement. C'est mère de l'Église et elle est notre mère. Et elle prend soin de nous, cette Vierge incomparable, cette Vierge immaculée. Elle prend soin de nous comme ses enfants, comme Jean, il y a 2000 ans. Et on le voit dans les apparitions. Lourdes, Marie, bien, invite à quoi ? À prier, à apprendre à prier et à persévérer dans la prière. Et tout cela dans la simplicité et dans la ferveur. C'est incroyable, Lourdes. Ce petit village de rien du tout, perdu, là, aux limites de la France, a capté à lui d'un seul coup... toute la population, c'est inimaginable. Des foules, très rapidement, sont venues devant cette grotte misérable, pour prier, avec une ferveur inimaginable. Marie peut transformer complètement nos vies, de même qu'elle a transformé ce village perdu de Lourdes. Elle peut vraiment tout transformer. Alors il faut lui faire confiance, il faut vraiment prier, je le répète, surtout dans ces jours qui sont les nôtres actuellement. Les sanctuaires, il ne faut pas naître, il y a des apparitions. Bon, la Lourdes, Fatima, qui nous parle d'un message très profond, de nuit lui aussi, mais aussi d'espérance. Donc là, c'est le ciel qui prend l'initiative, et par Marie, qui est la messagère du ciel. Mais il y a aussi des sanctuaires, comme celui du Cross, qui sont nés de l'initiative des hommes, de leur prière. C'est une guérison là, qui est à l'origine de la fondation de ce sanctuaire où nous sommes. Et la Vierge répond pareillement, et les expériences eh bien, sont aussi riches, quel que soit le type de sanctuaire auquel on a affaire. Il suffit de le vouloir, il suffit d'être attentif, il suffit d'accueillir la grâce qui nous est proposée. Les messages arrivent toujours dans des périodes graves. Et s'il y a eu Fatima, dont le contenu n'est pas encore achevé en réalité, semble-t-il, eh bien, c'est que vraiment, là, le monde a commencé avec l'ère moderne, avec le XXe siècle et sa première guerre mondiale, a commencé quelque chose de catastrophique. Et c'est lié à la perte de la foi, bien évidemment. Donc, bah, prions pour ce pays, prions pour l'Église aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait mémoire aussi des scandales de la pédophilie, de manière particulière, puisque mardi, là, va sortir le texte de la commission qui avait été nommée pour enquêter là-dessus. Bah, une Église qui ne fait pas le ménage, c'est comme un pays qui abandonne la foi. Ça revient au même. Ça devient vide. Donc, à la lumière de ces prêtres vicieux et scandaleux qui ont tellement terni notre Église, qui est notre famille, notre maison, moi je dirais que on va pas à la messe pour le clergé. On n'y va même pas pour les fidèles d'ailleurs. On va à la messe pour Jésus. Et ça, c'est le seul moyen d'essayer de repeupler un peu les églises, parce que ce n'est pas avec notre clergé et sa réputation, en tout cas. Il y a beaucoup de prêtres qui sont super, mais c'est comme si vous faites éclabousser en passant au bord d'une flaque, là, il y a 10 prêtres, une voiture passe et pof, de la boue sur tout le monde, on est tous boueux. Donc, prions le Seigneur pour que les prêtres puissent continuer à célébrer en toute pureté les sacrements dont ils ont la charge à annoncer la parole, sans être obligés de se dépêtrer de tous ces scandales et de répondre de torts qui ne leur appartiennent pas. En tout cas, demandons vraiment et acceptons la perspective que Dieu veuille véritablement nettoyer son Église. Tant pis si c'est un peu douloureux sur le coup, mais il est temps, après tout, de faire un peu de ménage. Et ça, mettons-le dans la miséricorde de la Vierge Marie.